Bonjour, ici Michel Lacombe pour le 21e, l'émission qui vous présente des hommes et des femmes qui illustrent l'état de notre société au début de ce millénaire. Nous recevons aujourd'hui une femme née en Haïti, dans une famille privilégiée qui a dû s'exiler dans les années 60 pour se réfugier à Montréal. C'était l'époque de Papadoc Duvalier. La jeune Régine a 11 ans et, ma foi, elle s'adapte plutôt bien puisqu'elle devient infirmière diplômée du Cégep du Vieux-Montréal. Et quelques années plus tard, elle s'enrôle dans l'Action syndicale et devient présidente du plus grand syndicat d'infirmières au Québec. Régine Laurent, bonjour.
Bonjour.
Régine Laurent, 11 ans, vous avez donc des souvenirs très précis. Est-ce que ce sont de bons souvenirs?
D'Haïti. Absolument. Des bons souvenirs d'enfants choyés, gâtés, non seulement par les parents, mais par toute la famille. Oui, de très, très bons souvenirs.
Donc, vraiment privilégié. Des gens de la caste supérieure, si on veut.
Non, mais... on n'a pas caste en Haïti, mais des gens
mais
qui étaient...
c'est presque ça, hein?
Oui, oui, privilégiés, parce que mes deux parents travaillaient. Mon père était avocat, ma mère enseignante et tout ça. Mmh. Donc, on n'a jamais manqué de rien. On était effectivement parmi les privilégiés, mais on s'en rend compte quand on sort du pays à cet âge-là.
Parce que à ce moment-là... Vous n'avez pas cette conscience-là?
Pas du tout. Pas
vous
à cet âge-là.
Vous allez à l'école chez les religieuses?
On va à l'école chez les religieuses, catholiques. Mm-hmm. Moi, j'étais au primaire et ma mère enseignait au secondaire à la même école, mm-hmm. Ce qui était particulier quand même. Et mes frères allaient chez les frères au petit séminaire aussi.
Et vous n'avez pas conscience comme enfant qu'il se passe des choses terribles dans le pays?
On n'a pas conscience parce que tout ce qu'on nous demande comme enfants, on nous conduit à l'école, on a nos lunchs, on peut jouer après l'école, on a les amis du quartier, on va passer les grandes vacances de la région où vient ma mère, de la Petite Rivière, et là, c'est le bonheur total pendant 2 mois de vacances. Alors, on n'a pas conscience de ça. Et déjà qu'on trouve, en tout cas nous, les enfants, qu'on nous en demandait beaucoup parce qu'il fallait réussir à l'école, il fallait pas être trop tannant. Et donc, on n'a pas conscience à 8, 9, 10 ans de ce qui se passe. Tout ce qu'on sent, à un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose de lourd, des fois, dans la maison, ou qu'on entend les adultes chuchoter. On sent qu'il se passe quelque chose, on n'est pas capable de comprendre, mais c'est comme si ça fait partie de la vie et on connaît pas autre chose. Alors, on fait avec.
Alors, à 11 ans, le jour du départ, c'est tout nouveau, là. Là, vous découvrez le monde, quoi.
Tout à fait, tout à fait.
D'ailleurs, racontez comment ça se passe.
Mon frère, ma mère est partie avant, quelques mois avant, en disant, sous le prétexte, elle avait été aidée par une religieuse québécoise, d'ailleurs, en disant qu'elle venait visiter l'expo qui avait eu lieu l'année d'avant. Donc, on était en 1968. Et il fallait faire attention.
Alors, l'Exposition universelle de Montréal
67.
De 67.
Oui. C'est ça. Mmh. Alors, ma mère part seule, en laissant derrière elle les enfants et mon père. Et à la fin de l'expo, école, mon père nous dit à mon frère et moi, la veille de notre départ, bon, on part retrouver maman à Montréal. Et ils nous disent, et ma grand-mère paternelle était là aussi, qu'on ne pouvait pas vous le dire avant, de peur que les enfants, on s'échappe pour dire au revoir à nos amis puis leur dire qu'on partait. Alors, ça a été comme ça. Et le moment où mon frère aîné et moi, on a senti qu'il y avait quelque chose, c'est de voir ma grand-mère paternelle qui a cousu l'argent liquide, parce que là, il faut se rappeler, là, il n'y avait pas les cartes de guichet. Mmh. Donc, qui a cousu l'argent, les billets, à l'intérieur du veston que porterait mon frère aîné le lendemain, là, lors du voyage. Et à ce moment-là, et mon père nous a dit, quoi qu'il arrive, vous continuez, votre mère vous attend à Montréal. Alors, à cette époque-là, il faut savoir que même des gens qui étaient déjà assis dans l'avion, tant que l'avion n'avait pas décollé, Duvalier faisait chercher des gens dans l'avion. Et mon père nous avait dit, quoi qu'il arrive, vous continuez. Et à ce moment-là, je pense que mon frère aîné et moi, parce que ça, les deux petits n'étaient pas de cette conversation-là, on a compris qu'il y a eu quelque chose de lourd qui est resté et qui s'est... qui s'est allégée au moment où on est arrivé à la Jamaïque. Parce qu'à l'époque, il fallait faire escale, Miami ou la Jamaïque, etc. Et nous, c'était escale à la Jamaïque. Et quand on s'est assis au restaurant et qu'on a vu mon père éclater en sanglots, parce que là, c'était vraiment... il y avait une conscience qu'il était vraiment parti et qu'on ne l'avait pas arrêté et qu'il avait pu accompagner ses enfants jusqu'à Montréal. C'est la première fois, mais pleurer de cette façon-là, j'ai jamais vu mon père pleurer comme ça après. Jamais.
C'est là que vous avez réalisé que votre père était en fait un personnage de l'opposition ou quoi? Comment ça s'est passé dans votre tête, dans votre conscience?
Dans notre tête, ce que je comprenais, c'était que mes deux parents sont des gens avec une conscience sociale, avec l'idée d'un partage. Mon père avait travaillé sous le régime de Magloire, dans ce qu'on appelait à construire les cités ouvrières, etc. Donc, sous Duvalier père, toute personne qui pouvait réfléchir autrement que ce qui était dicté était suspect. Alors, mes parents étaient suspects, et particulièrement mon père. Alors, dès qu'il y avait une menace ou qu'on faisait une rafle, bien, souvent, malheureusement, mon père était parmi ceux qui étaient ramassés et jetés en prison.
Votre père était avocat et ouais. Votre mère enseignante. Ouais. Alors, donc, ils avaient déjà beaucoup d'instructions, ouais. Les deux. Ils venaient Absolument. De familles, déjà, de grandes familles aussi.
Oui, les deux. Les deux, oui.
Alors, vous vous trouvez à Bordeaux, dans le Nouveau-Bordeaux, dans le nord de Montréal, l'Acadie, en haut, dans les Bourassa. Ça doit faire bizarre. J'espère que ce n'était pas l'hiver.
Non, ce n'était pas l'hiver. C'était au mois de fin juin, début juillet.
Ah bon, quand
non,
même.
Non, non, non. C'était,
on vous passé... a adouci le
chaud. Ah non, mais on a passé un été extraordinaire. C'est qu'on est arrivé, j'avais ma cousine Marie-Hélène qui était déjà ici, à Montréal et tout ça. Donc, on a débarqué les six dans l'appartement et tout. Et ensuite, durant l'été, mes parents ont loué un appartement, mais on a passé un été extraordinaire. On a commencé à avoir des craintes au moment où l'école arrivait, parce que ça, c'était nouveau.
Mais...
Et en plus, on me faisait... Parce que j'avais passé mon certificat d'études primaires en Haïti, j'avais eu mon certificat et tout, et tout le monde avait conseillé à mes parents de nous faire recommencer une année.
Ah bon?
Pour s'adapter au système. Alors moi, au lieu d'aller directement au secondaire, j'ai refait la sixième année, justement à l'école Louis Pasteur. Donc nous tous, on a recommencé.
Vous n'avez pas trouvé ça injuste?
Pas vraiment, parce qu'ils nous avaient expliqué que c'était pour s'adapter au système, que c'était pas la même chose, parce qu'en Haïti, c'est beaucoup le système français, alors c'était pas la même chose, c'était mieux de s'adapter que de traîner des lacunes éventuelles, etc. Puis, tu sais, deux parents professeurs, on discutait pas beaucoup, là, c'était tu t'en vas sixième année, point à la ligne, là.
Oui, d'accord. On n'avait pas les discussions qu'on a aujourd'hui.
Pas tout à fait, pas sur ces sujets-là.
Non. Vous étiez plutôt bon élève.
Mon frère était le premier de classe.
Ouais.
Et
avez-vous eu l'impression que vous refaisiez un peu les mêmes classes, à réapprendre les mêmes choses que vous saviez déjà ou si...
Non, les méthodes étant tellement différentes, puis l'apprentissage n'était pas le même. Puis il y avait tellement de choses à apprendre, ne serait-ce que comment fonctionne l'école, se faire des nouveaux amis, parce que pendant l'été, c'était pas les mêmes du quartier, que tout le monde n'allait pas à l'école Louis Pasteur. Mm-hmm. Fait qu'il y avait tellement de choses et l'apprentissage n'était pas le même, parce qu'en Haïti, on apprenait beaucoup, beaucoup par cœur. Alors, ne serait-ce que l'apprentissage, c'était tellement différent que j'ai pas eu le temps de me demander si c'était correct ou pas correct, là. Vraiment.
Alors, vous êtes entièrement dans l'apprentissage.
Oui.
Et
oui.
Puis, ça vous fait pas peur quand vous avez pas de... Pardon?
L'adaptation. Et l'adaptation aussi.
Oui.
Oh, oui.
Est-ce que vous diriez que l'intégration, pour prendre le mot le plus neutre possible, là, je sais pas si on a le droit de dire intégration, est-ce que l'intégration était plus facile dans ce temps-là qu'aujourd'hui?
Je le sais pas. Probablement
vous en avez vu arriver des vagues d'Haïtiens.
Absolument,
là. Il y en
absolument.
A eu plusieurs après.
Absolument. À mon école, autant à Louis Pasteur qu'après ça, à l'école secondaire, j'étais la seule noire de l'école.
Oui.
Mes frères étaient les deux seuls noirs aussi.
Les seuls.
C'est sûr que l'approche. Est différente. Alors, tout le monde vient te voir en disant d'où tu viens, tes cheveux, ça touche quoi, etc. Donc, c'était différent. J'ai l'impression que c'est la société qui était complètement différente. Donc, l'approche est différente. Mmh. Puis, l'apprentissage ou l'adaptation, quand on a 9, 10, 11, 12 ans, c'est sûrement pas, mes parents vous diraient sûrement pas la même chose, parce que eux, ils étaient adultes, responsabilité de 4 enfants et tout ça, donc probablement que c'est pour eux, on a compris plus tard que c'était difficile, mais pour nous, les enfants, pas vraiment.
Oui, pour eux qui étaient des personnages établis là-bas, ouais. Il faut retourner à l'université ici, refaire ouais. des cours.
Tout en travaillant.
Pourquoi d'ailleurs?
Parce qu'il fallait refaire des cours pendant qu'ils enseignaient et le soir, ils allaient à l'université parce qu'il fallait suivre des cours de pédagogie.
Alors, votre mère a quand même trouvé à enseigner tout
oui,
de
oui.
suite.
Oui, les deux ont trouvé à enseigner tout de suite. Mmh. Et donc, ils enseignaient dans le jour, puis le soir, ils allaient à l'université. Ils ont fait ça pendant 3 ou 4 ans. Donc, ce que ça voulait dire, c'est qu'ils partaient de la maison à 6h30, 7h le matin, puis ils rentraient à 10h30 le soir, en faisant confiance aux deux plus vieux, mon frère et moi.
Vous avez été mère de famille il y a 12 ans?
Je pense que les plus jeunes ne diraient pas ça. Parce que, non, mais mes parents passaient leur fin de semaine à cuisiner, oui. à préparer plein de repas pour que les deux plus vieux puissent juste réchauffer. Parce que à l'époque, on allait manger à la maison le midi, puis on tournait à l'école. Mmh. Alors, ce qui faisait qu'on restait pas longtemps à la maison, on était toujours les premiers sur la cour d'école le midi. Ce qui faisait qu'on traînait aussi à 4 heures. Mais en même temps... quand on couchait les plus jeunes, les plus vieux, on se permettait de se coucher un peu plus tard que permis, puisque les parents n'étaient pas là. Mais ça se faisait. C'était comme normal.
C'est juste ça. Il n'y avait pas grand-chose à la télévision.
Non, il y avait 4 postes.
Oui.
Il y avait 4 postes.
En noir et blanc.
On écoutait en noir et blanc. Oui, oui. Puis on écoutait les bandes dessinées en noir et blanc.
En noir et blanc.
Oui, oui, tout à fait. Oui.
Pour ses études collégiales, Régine Laurent choisit le cégep du Vieux-Montréal pour des raisons tout à fait québécoises. Retrouvez-la sur le site du 21e de iciradiocanada.ca. Quand il vient le temps d'aller au collège, bon, c'est le régime des cégeps qui
oui,
a commencé à ce moment-là.
Tout à fait.
Et vous décidez d'aller au Vieux-Montréal.
Oui.
Mais ça a déjà mauvaise réputation en 70, le Vieux-Montréal.
Mais c'est pour ça que je voulais aller là. Mes parents n'ont jamais compris parce que Nouveau-Bordeaux, le cégep à côté, c'est le cégep Bois-de-Boulogne.
Bois-de-Boulogne, qui a très bonne réputation, très,
très
propre.
Excellente réputation, oui. Trop pour moi.
Ah bon?
Il fallait que ça bouge un peu, puis je trouvais qu'à Bois-de-Boulogne, parce que je connaissais le cégep parce qu'ils avaient un cinéma qui faisait les fins de semaine, alors on allait, mon frère et moi, au cinéma à Bois-de-Boulogne, mais je trouvais que c'était trop straight. Je suis désolée. Il fallait que ça bouge un peu. Il fallait que ça bouge en dehors de l'école puis en dehors des études. Alors, comme j'écoutais les nouvelles et je lisais les journaux, je savais qu'au Vieux-Montréal, il y avait d'autres choses que juste l'école. Alors, je prenais l'autobus et j'allais jusqu'au Vieux-Montréal.
Vos parents n'avaient pas peur de ce vent de contestation et de grève étudiante et de choses pas très propres?
Non, je pense qu'ils étaient tellement contents que je choisisse une profession avec des règlements où il fallait quand même une grande rigueur, qu'ils étaient tellement soulagés que j'allais à n'importe quel cégep, ils étaient contents.
C'est vrai, vous allez au cégep pour faire infirmière.
Oui, tout à fait. Oui.
Vous n'avez pas la tentation de faire le général puis d'aller à l'université
non,
après?
Non, pour moi, c'était clair. Non. Non.
Pourquoi, pourquoi c'est si clair, si rapidement?
À un moment donné, probablement que j'avais le goût. C'est clair que je voulais rapidement arriver au marché du travail aussi. Mmh. Je voulais rapidement être autonome. Oh oui, c'était très, très clair. Je voulais rapidement être autonome. C'était ça. Et
un
à l'époque, on ne parlait pas. Pardon?
Un peu une tête dure.
Probablement un peu.
Oui, bon, d'accord. On voit à qui on a affaire. Et c'est pendant ce temps-là que vous êtes... Déjà, pour faire un peu d'argent, vous êtes préposé à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, qu'on appelle Hippolyte Lafontaine
oui,
maintenant.
Oui.
Préposé aux malades, c'est l'hôpital psychiatrique à l'ancienne, ça. Là.
Tout à fait. Oui. On se promenait avec les gros trousseaux de clés. Mais j'ai aimé ça, être préposée, parce que j'étais chanceuse. On m'envoyait souvent sur un département où c'était des... Puis je travaillais de soir, évidemment. Donc, les patients, je les amenais en bas. Il y avait un cinéma en bas. C'était des patients qu'on pouvait aller promener à la place Versailles. On était plusieurs préposés ensemble. Fait que...
Vous pouviez les sortir
oui,
de,
oui, oui, moi, j'étais sur un département où on pouvait les sortir. Ouais. Puis il y avait un cinéma à l'époque à Louis H. Lafontaine. Et c'était l'époque où le film vole au-dessus d'un nid de coucou.
Oui.
Alors, fallait voir dans l'auditorium tous les patients éclater de rire pendant le film. C'était vraiment assez spécial. Donc, c'était correct. Mais je savais aussi que je voyais la santé mentale, je voyais la souffrance mentale. Puis je me disais, moi, j'ai pas l'énergie de faire ça. Quand je vais être infirmière, non. J'ai pas les qualités qu'il faut, j'ai pas la patience qu'il faut.
Qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que ça prend que vous aviez pas? Qu'est-ce que ça prend que ceux qui font ce travail souvent admirable ont?
Ça prend... Il faut être capable de croire puis avoir la foi en la moindre petite amélioration ou la moindre lueur d'espoir. Puis il faut être capable d'attendre beaucoup, beaucoup un jour les résultats. Et cette forme d'attente-là, cette forme de patience jour après jour pour un jour peut-être voir les résultats, moi, j'ai pas ces qualités-là. Alors, je les trouve admirables parce que je sais, c'est clair, pour moi, j'ai pas ça.
Mm-hmm. Non. Alors, malgré ce départ en catastrophe d'Haïti, votre mère est appelée à retourner quelques années plus tard pour ouvrir un lycée.
Oui. Ouais.
Mais c'est encore Duvalier, on est Duvalier-fils, mais c'est encore la famille Duvalier qui est au pouvoir. Expliquez-moi ça un peu, là. C'est quand même étonnant. On parle des gens qui quittent Haïti, qui ne reviennent pas, qui sont souvent les forces vives de la nation. D'ailleurs, on en reparlera. Et puis, c'était possible, ça, dans le temps du fils Duvalier, d'être appelé, de revenir faire
un travail comme ça? Oui, c'est ce qui est arrivé avec ma mère. Le ministre de l'époque, c'était M. Bernard, si ma mémoire est bonne, de l'Éducation, lui a dit, écoute, je veux ouvrir un lycée de jeunes filles, un lycée d'État. Ça me prend quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui est pas redevable à qui que ce soit, qui ne pliera pas devant... l'intimidation et les menaces. Alors, Yolande, réfléchis, je te rappelle demain, je veux ta réponse. Et un mois et demi, deux mois après, ma mère était en Haïti pour ouvrir le lycée. Elle a été là pendant 6 ou 7 ans qu'elle a passé avec ce lycée-là.
À ce moment-là, vous êtes déjà infirmière.
Oui, on est adultes, là, les enfants, tout à fait. Ouais.
Et puis, votre père, il reste ici?
Oui, mon père repart après. Là, puis, mon père avait toujours dit qu'à sa retraite, il retournerait en Haïti, peu importe.
Ah bon?
C'est comme si, lui, il n'avait jamais vraiment défait ses valises, contrairement à ma mère. Mmh. Et il avait dit, peu importe la situation, je retourne en Haïti. Et c'est ce qu'il a fait. Au moment où il a pris sa retraite, quelques années après, il est parti pour Haïti. Ouais.
Alors, quelle est votre réflexion à vous et votre famille? Puisque, en fait, ce que vous nous dites là est très, très particulier, très touchant. On déplore beaucoup le fait que les forces vives d'Haïti soient parties, hein, qu'il y en ait plus à New York et à Montréal, qu'il y en a dans tout Port-au-Prince, que les gens qui pourraient faire une différence au gouvernement ou ailleurs ne soient plus là. Mm-hmm. Il y a même des gens qui sont tentés de vous culpabiliser, vous, les gens qui sont partis. Mm-hmm. Quelle est votre réflexion là-dessus?
C'est malheureux, mais c'est le propre de toutes les dictatures. Toutes les dictatures vont évincer, d'une manière ou d'une autre, tous ceux qui peuvent réfléchir, tous ceux qui peuvent amener des solutions pour l'ensemble du peuple, tous ceux qui veulent l'éducation d'un peuple. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé en Haïti, tout comme ailleurs. Mais moi, je ne reçois pas cette culpabilité-là. Il y a des gens qui ont envie, qui ont tenté de retourner en Haïti, qui ont tenté de faire des choses. Certains ont réussi, d'autres ont déchanté, malheureusement, parce que en même temps, pour faire quelque chose, il faut une structure, et une structure politique, une structure sociale pour être capable d'avancer. Alors moi, je suis rendue à me dire que je soutiens beaucoup de petits projets directement dans les communautés. Et c'est malheureux de dire ça, mais un peu directement avec les communautés et non pas attendre des grandes réformes de la part de l'État. L'État haïtien a tellement de problèmes. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'espace pour intégrer vraiment des gens de l'extérieur qui voudraient faire quelque chose. Ça se fait, mais à très petite échelle. Très petite échelle.
C'est désespéré?
Non, en travaillant avec des petites communautés directement...
Parce que, comme vous le dites, ça a l'air désespéré. Il n'y a rien à faire avec l'État.
Non, ça fait de la peine. Ouais. Non, je dirais plus que c'est ma peine que j'exprime. Je pense qu'il y a moyen de changer les choses. Il y a moyen de faire mieux. Il y a moyen de mettre les structures qu'il faut en Haïti. Parce que, ne serait-ce que commencer par l'éducation, ne serait-ce que commencer par la santé pour tout le monde, fait que il y a tellement d'enchevêtrement politique que c'est un peu difficile. Et souvent, quand je pense à Haïti, je pense à Thomas Sankara, qui avait fait un travail au Burkina Faso. Malheureusement, il a été tué, ça allait trop bien. Et qui, en quelques années, quand même, avait instauré des politiques que je trouvais extraordinaires, c'est-à-dire vous consommez localement. Il avait instauré une politique agraire, même si c'est un pays où c'est difficile l'agriculture. Donc, il avait redonné toute une fierté nationale et qu'il faut tout faire national pour s'en sortir. Mais ça allait trop bien, alors il a été tué en quelques années.
Est-ce que vous feriez un parallèle avec Aristide?
Non. Non. Pas du tout.
Régine Laurent retournera elle-même quelques fois en Haïti. Vous la retrouverez sur le site du 21e. Ici Radio-Canada, première. Vous êtes retournée vous-même en Haïti,
oui,
sur des missions. Est-ce que c'est pendant que votre mère était de retour, d'ailleurs? Est-ce que...
Quand je suis allée en mission, oui, ma mère était en Haïti, mais ma mère, après qu'elle ait fait 6 ou 7 ans, 8 ans au lycée, bon, après ça, elle faisait le va-et-vient entre Montréal et Port-au-Prince. Mais je suis allée, c'était vraiment avec une mission avec le Centre international de solidarité ouvrière. Et ça a été une dizaine de jours, puis avec les gens du ROCAD aussi. Donc, non, ça n'avait pas vraiment rapport avec la présence de ma mère
D'accord.
en Haïti.
D'accord, mais qu'est-ce qui vous a... C'était la première fois que vous retourniez, donc, 20 ans plus tard?
Oh, non, j'étais retournée plusieurs fois avant ça.
Ah bon, d'accord.
J'étais retournée plusieurs fois.
Alors, vous n'avez pas eu le choc de voir Haïti tout à coup, 20 ans plus tard?
Non. Ma grand-mère maternelle, vers l'âge de 15 ou 16 ans, elle avait fait chercher les filles pour aller passer des vacances en Haïti. Et évidemment, quand on va en vacances, la famille, ça fait... 4, 5, 6 ans qu'on est parti, on était comme des reines.
Et puis le Québec?
Et puis le Québec?
Vous vous êtes adapté
absolument.
Rapidement.
Oui.
C'est quoi la différence principale entre le Québec et Haïti, vu par vous, là, comme
c'est,
ça?
C'est
question
difficile.
Simpliste, mais j'essaie de trouver une façon
difficile.
Faire un parallèle.
J'essayais même de me dire, est-ce que je peux comparer au niveau de l'adolescence? Je ne sais pas, je n'ai pas connu l'adolescence en Haïti,
ouais,
je l'ai
d'accord.
connue ici. Et en plus, il y a beaucoup de choses qu'on a gardées au niveau de la famille, des coutumes, des façons de faire, etc. Et la perception que j'avais plus jeune, c'est qu'on avait beaucoup plus de liberté que peut-être on aurait eu si j'étais restée en Haïti à l'adolescence ou jeune adulte.
Probablement, oui.
Oui, ça, je le sentais. Ça, je le sentais et j'en ai bien profité. Mais c'est peut-être ça que je pourrais voir dans mon cheminement d'adolescente ou de jeune adulte. Et probablement aussi, même adulte, il y a le regard. Parce qu'en Haïti, dans un quartier ou dans la ville, on ne fait pas deux pas, que tout le monde le sait où est-ce qu'on est allé. Et si on prend un chemin qui n'est pas le bon, c'est pas long. On ne sait pas, il n'y avait pas de téléphone cellulaire, mais c'est rapide que les parents le savaient. Là, donc, il y avait cette espèce de surveillance sociale qu'ici, on était des nobody. Et nous, ça faisait notre affaire parce qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, puis il n'y avait pas la voisine qui appelait pour dire qu'il était trop tard quand on est rentré. Donc, je pense que c'est cette forme de liberté dont, en tout cas, les plus vieux, on en a profité.
Alors, vous devenez infirmière, donc, et vous entrez dans le merveilleux monde de la santé au Québec. C'est quoi vos premières impressions du système de santé dans lequel vous entrez? Comme jeune, travailleuse, diplômée, enthousiaste?
Enthousiaste, c'est le mot. J'étais tellement contente. Et je me souviendrai encore quand j'allais mon premier stage, quand je suis allée avec ma mère acheter mon premier uniforme d'infirmière. Fière comme ça, ça se pouvait pas. Et quand j'ai commencé à travailler, ben c'était beaucoup. J'étais chanceuse parce que il y avait des plus anciennes que moi, des plus expérimentées, qui m'ont prise sur leur aile, qui m'ont aidée dans mon apprentissage. Que la différence entre quand on est en stage et quand on est responsable d'un groupe de patients, c'est comme deux affaires. Donc, il y a de quoi avoir chaud. Mais il y avait des plus vieilles qui m'ont aidée, qui m'ont aidée dans mon cheminement, qui m'ont accompagnée, qui me conseillaient, puis que je pouvais aller voir. Alors mon enthousiasme, il est toujours resté dans mon travail, dans ce que j'aime comme infirmière. Ça, c'est toujours là. Ouais.
Et puis, vous vivez, en fait, les débuts du système de santé québécois, de la régie d'assurance maladie.
Oui, j'ai terminé en 79.
Ah, 79 oui, quand non, même. Non, bon, mais comme étudiante. Alors, vous voyez arriver ça comme étudiante.
Tout à fait.
Vous le vivez. Oui. Et puis, vous êtes là pendant donc le premier gouvernement du PQ et après ça, le gouvernement Bourassa. Comment, à quel moment avez-vous commencé à trouver que le système de santé a des failles importantes et qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour le protéger?
Probablement autour de 87, 88, 89. Parce que, dans mon souvenir, il y avait eu quand même, en 82, mais c'était des coupures de nos salaires. À l'époque, René Lévesque, vous vous souvenez, il avait coupé 20%, etc. Et les années qui ont suivi, et ça, ça a été le déclenchement de ma prise de conscience.
Vous avez coupé 20% pendant trois mois. Oui, ce qu'on appelait la piscine. Hein?
On ne trouvait pas ça drôle comme une piscine, nous autres. Non, on ne trouvait pas ça drôle du tout. Mm-hmm. Et c'est les années après où j'ai commencé à suivre plus les choses, à être moins uniquement sur mon centre d'activité, puis à m'intéresser plus largement à ce qui se passait à l'hôpital, puis dans le réseau. Et je dirais, à partir de 87, 88, 89, on parlait déjà de coupures, on parlait déjà de l'incapacité d'avoir des postes stables. Parce que, et c'est pour ça, une des choses, quand j'ai milité en 89, c'est qu'il y avait les infirmières attendaient chez elles qu'on les appelle pour être capable de rentrer travailler. C'était ça, là.
Il y en avait trop.
C'est pas qu'il y en avait trop. Il donnait pas de poste à temps complet.
Ah bon, d'accord.
Alors, puis c'est sûr qu'on n'était pas en pénurie, mais il donnait pas de poste. Alors, tout le monde attendait le téléphone pour rentrer travailler de jour, de soir, de nuit, le samedi, le dimanche. On attendait tout le temps. Et à un moment donné, je me dis, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça se peut pas qu'on soit dans un pays riche, parce que ça, j'en avais conscience. Puis en même temps, qu'on soit comme ça. Donc, c'est à partir de ces années-là que j'ai commencé à réfléchir par rapport au réseau de santé.
Et vous commencez l'action syndicale à ce moment-là.
Oui. 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 Mais l'action syndicale, c'est parce que j'étais choquée un matin. Oui, j'étais choquée parce que je travaillais nuit. Oui. Puis à un moment donné, j'avais mis mon choix de vacances et je me rends compte de nuit plus tard que mon choix avait été enlevé puis qu'il y en avait une autre que je savais qui était arrivée après moi puis qui avait son choix de vacances. Fait que j'ai passé la nuit en colère et le matin, il y en avait une ou deux infirmières avec qui j'avais plus de contact. Puis je me suis mis à gueuler, puis à dire ça n'a pas de bon sens, c'est pas logique. Comment ça se fait qui se permet de faire ça? Puis j'en passe. Et elles m'ont dit, on comprend, tu peux bien nous parler, mais il y a quelque part, il y a un bureau qui s'appelle le syndicat. Va les voir, ils vont t'expliquer quoi faire, comment faire, etc. Et ce matin-là, j'étais allée me chercher un café et j'ai débarqué au bureau syndical avec la même colère. Puis on m'a dit, bon, d'accord, tu peux t'asseoir, on va t'expliquer. Ça se passe autrement.
On
m'a dit que j'avais raison. Ouais. Puis on m'a donné un petit livre qui s'appelle La Convention collective. Puis on dit, c'est là que c'est marqué. Et voici comment il faut que tu fasses les choses. Va d'abord voir ton chef d'unité. Puis si ça ne marche pas, reviens nous voir. On va faire les démarches qu'il faut. Puis, j'étais là, hors de moi. hors de moi. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé l'action syndicale, parce que il y avait les valeurs de justice au départ, mais c'était très individuel.
Oui, très égoïste au départ.
C'était très égoïste. Ouais. J'étais choquée par rapport à ce qui m'arrivait, moi. Et on m'a dit, bien là, c'est pour ça qu'on est là, parce qu'on veut que tout le monde soit traité pareil. Mm-hmm. C'est pas parce que tu es plus ami avec la chef d'unité que tu as droit à des passe-droits, etc. Alors ça me plaisait. Voilà.
Et puis là, vous entrez vraiment dans l'action syndicale. Oui. Vous devenez assez rapidement présidente de syndicat, puis présidente de la grande centrale des infirmières, la plus grande. Qu'est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est la fin, ou est-ce que c'est un pas vers... est-ce que vous allez faire de la politique un jour?
Non. Savez-vous, je n'ai jamais rien planifié dans ma carrière. Moi, là, c'est peut-être un défaut, je suis toujours dans le « aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'aime ça? Go, on y va, puis on verra demain. » J'ai jamais pensé, j'ai jamais eu un objectif. Quand je faisais du syndicat dans mon hôpital à Santa Gabrini, je me donnais à fond. Et en plus, il fallait que j'aie du plaisir là-dedans. Il fallait que je me retrouve là-dedans. Et quand, après ça, j'ai mené des dossiers au niveau de la fédération après, ben j'avais autant de plaisir, autant de... C'était tellement connecté à moi, les choix que je faisais, les dossiers que j'avais envie de défendre, que c'était un plaisir incroyable, malgré la charge de travail que ça pouvait demander, malgré la pression. Ça me dérange pas. Fait que j'ai jamais eu... un objectif de « demain, je vais devenir ci ». Pas du tout. Pas en ce qui a trait à ma vie professionnelle. Je peux avoir envie de planifier des voyages, envie de planifier d'autres affaires, mais là-dessus, non, j'ai jamais senti ce besoin-là. Pas du tout. Je suis bien aujourd'hui dans ce que je fais, puis il y a 5 ans, j'étais bien aussi dans ce que je faisais. Fait que je sais pas ce que je vais faire dans X temps.
La présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé, Régine Laurent, que vous pourrez voir et réentendre sur le site du 21e de iciradiocanada.ca. Mais je vais vous amener sur le terrain de l'examen du système de santé. Mm-hmm. Hein? On a beaucoup dit que, enfin, on a beaucoup déploré l'état de dégradation du système de santé. Mm. On comprend le manque de moyens, le manque d'argent, l'augmentation faramineuse des coûts. Ça fait plusieurs rapports d'experts qui nous avertissent que l'augmentation des coûts est inévitable, etc. Il faudra savoir gérer ça, faire des choix, etc. Mais on a dit beaucoup aussi que beaucoup de l'état du système est dû au corporatisme. Hein? Il y a les médecins, puis en dessous, il y a les infirmières. Puis en dessous, il y a les infirmières auxiliaires. Puis en dessous, il y a les aides. Puis en dessous, il y a les préposés. Et puis là, à côté, il y a toutes sortes de spécialités. Puis chacun a sa spécialité, puis défense. Et puis ça devient une énorme administration. Puis chacun qui défend son territoire. Est-ce qu'il y a une solution à ça?
Je ne veux pas être en dessous des médecins, parce que ce n'est pas ça. Puis les infirmières auxiliaires non plus. On n'est pas en dessous des médecins. On a un champ de pratique qui est différent.
Oui, mais dans la réalité des choses.
Comment fonctionne, en tout cas, comment on voudrait fonctionner dans le réseau de la santé? Je pense pas que ce soit le corporatisme qui soit le problème. En tout cas, je vais parler pour les infirmières ou les infirmières auxiliaires, par exemple. C'est que nous, on est dans des équipes de travail, on est dans une équipe de soins et... les gens qui décident, les personnes qui prennent les décisions, par exemple, de dire « on va ouvrir telle unité, on va fonctionner telle heure à telle heure, voici comment fonctionne la clinique externe », c'est pas nous. On est vraiment dans la dispensation des soins. Et quand on essaie depuis des années de dire « on pourrait faire mieux, nous », on pourrait mieux utiliser notre expertise. Y a quelqu'un au ministère de la Santé ou au gouvernement, à tous les gouvernements qui sont passés, qui n'a pas envie d'entendre ça et qui n'a pas envie de faire les choses autrement. Et pour moi, c'est ça un des problèmes majeurs dans le système de santé. C'est les
fonctionnaires.
Il y a quelqu'un qui prend des décisions. C'est pas les fonctionnaires, mais il y a des politiques. Il y a des ministres de la santé.
Il y a un ministre de la santé, puis il y a des tonnes de fonctionnaires, puis il y a des milliers de...
Oui, mais c'est quoi le rôle du ministre de la Santé? Ouais. C'est de donner les orientations de son ministère. Ouais. C'est de s'assurer que ces orientations-là sont suivies. C'est de s'assurer qu'on va faire, on va prendre les meilleures choses, qu'il va y avoir les meilleures pratiques dans le réseau de la santé. Moi, c'est une des choses que je ne comprends pas, qu'on ait un ministre de la Santé. C'est quelqu'un, normalement, qui a du pouvoir ouais. par rapport au réseau de la santé.
Est-ce qu'un ministre de la Santé qui dure 3 ans, 4 ans, bon, disons qu'ils ont la chance d'être réélus puis ils durent 5, 6 ans, peut vraiment changer une énorme machine comme celle-là qui a une force d'inertie et qui, encore une fois, se partage entre des compétences, des champs de juridiction âprement défendus par, appelons pas ça des corporations si ouais. vous voulez pas, mais ça en est quand même.
Mais je pense que ce que j'ai vécu avec les différents ministres de la Santé, c'est que tous arrivent avec l'idée, puis c'est très légitime, là, je mm-hmm. le dis avec beaucoup de respect, chacun arrive avec son idée pour le réseau de la santé. Alors, on passe de réforme en réforme, et ça depuis 1995, et on n'est jamais allé au bout complètement d'une réforme pour ensuite l'évaluer. Ouais. Moi, ce que je dis, OK, idéalement, là, si je pouvais faire quelque chose...
Oui.
J'enfermerais quelques personnes très claires dans ma tête, puis je leur dirais, OK, d'accord, on fait qu'est-ce que ça prend pour que ce soit mieux en CLSC, en CH, en CHSLD, partout. Qu'est-ce que ça prendrait? Comment faudrait faire les choses? Comment mieux aller avec tout le monde? On sort de là et aucun ministre ne vient faire une réforme pour les 15 prochaines années. C'est ça que je souhaiterais. Et là, on ferait...
Pas abolir les irait... élections aussi, peut-être?
C'est ça, le problème.
Parce que c'est ça, oui.
C'est ça, le problème.
Le problème, c'est la démocratie, quoi.
Mais ça vient pas à travers la démocratie. Ça vient dire... Parce que comment on a pu faire ça en éducation, de dire, voici l'orientation, et c'est ouais. ça qu'on fait pour les 10, 15, 20 prochaines années, mmh. et on fait des évaluations régulières. Pourquoi est-ce que dans le réseau de la santé, on ne peut pas se dire, voici nos orientations, puis là, peu importe mmh. le ministre de la Santé qui arrive, on recommence pas avec une nouvelle affaire. Ce qui a été lourd dans le réseau, c'est de réforme en réforme en réforme, puis on ne va jamais au bout. Puis là, les réformes, c'est toujours... instantané. Lundi matin, on arrive, boum, c'est changé. Ça se peut pas, ça, là. Ça se peut pas. Et ça fragilise le réseau, à mon avis.
On est moins sérieux avec le système de la santé qu'avec le système d'éducation.
C'est pas moins sérieux, c'est une question de vision à long terme. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des orientations à long terme, puis qu'on les suive? Pourquoi est-ce que on trouve ça normal dans le réseau de la santé que à tous les 5 ans, on a une nouvelle réforme? Voyons donc, c'est pas possible d'absorber ça. Souvenez-vous le virage ambulatoire. On était d'accord avec ça. Mm-hmm. Moi, comme infirmière, j'étais d'accord. Mm-hmm. Je trouvais que c'était bien que les gens puissent sortir plus rapidement de l'hôpital.
On va garder les gens moins longtemps à l'hôpital.
Moins longtemps à l'hôpital,
et on va
assurer
des services à l'extérieur.
C'est ça. Mais les services à l'extérieur n'ont pas suivi parce que il y avait plus d'argent. Alors, c'est des choses comme ça qui viennent fragiliser le réseau de la santé.
Mais c'est ça, il y a toujours un moment où il n'y a plus d'argent. C'est ça, le problème.
Ouais, en tout cas, à mon avis, c'est des choix, là. Il n'y a plus d'argent, il y a des choix qu'on fait pour l'argent.
Mm-hmm.
Et si on peut choisir de mettre l'argent ailleurs que dans le réseau de la santé, et on peut choisir aussi de ne pas avoir le courage de s'attaquer aux pharmaceutiques, parce que c'est ça qui coûte très cher dans le réseau de la santé, qui a augmenté de façon vertigineuse. C'est ça qui coûte cher, c'est par exemple les pharmaceutiques. On n'a pas le courage de faire ça. On n'a pas le courage non plus de regarder au niveau de la technologie qui est magnifique pour les patients, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas encore plus de... Au volume qu'on achète au Québec de médicaments et de technologies, ça se peut pas qu'on puisse pas avoir, comme a fait par exemple l'Australie, pour baisser les coûts et avoir un pouvoir de négociation. Ça ferait diminuer les coûts dans le réseau de la santé.
On a essayé toutes sortes de choses. On a essayé de minuter les tâches. Hein? On a essayé de
pas
dire...
là-dessus, là.
On a essayé de dire, eh bien... Puis moi, je l'ai vécu avec des parents proches dans le système de santé. On se faisait compter ça par les préposés, par les infirmières à tous les jours. On a tant de temps pour changer de couche, on a tant de temps pour faire une injection. Est-ce que, dans le fond, est-ce qu'on n'est pas forcé d'aller vers des choses qui ont l'air peut-être un peu ridicules comme ça, mais s'il faut compter la dernière scène, il faut savoir où on la compte.
Mais on a ça dans le réseau depuis quelques années, puis c'est contre-productif. Ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher parce que c'est une gestion de contrôle et ça prend plus de monde pour contrôler. Les dernières années, avec ce que vous venez de décrire en termes de finances, bien, on n'a jamais eu autant une augmentation des cadres dans le réseau de 22 ou 25 %. Et les gens qui soignent, qui sont directement aux patients, pendant la même période, c'est une augmentation de 4 %. Quand on installe une gestion de contrôle, ça prend du monde pour contrôler. Et on ne peut pas être en train de parler d'êtres humains qui sont dans une situation fragile, vulnérable. Alors, ça veut dire que on va me dire que je dois vous changer votre pansement à la maison aujourd'hui. Et on me dit que j'ai 15 minutes. Mais si j'arrive ce matin et que vous n'êtes pas bien, que je vous trouve en larmes, que je vous trouve triste, il ne faut pas que j'aille chercher qu'est-ce qui se passe. Peut-être qu'il y a eu un décès dans la famille, peut-être que vous n'êtes plus capable et que vous avez besoin que je fasse une référence à un autre professionnel de la santé pour une meilleure prise en charge. Je suis incapable de regarder juste le petit bout de votre jambe du pansement. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens de soigner en pensant qu'on peut minuter. Moi, j'ai vu des grilles, là, que j'ai trouvé odieuse. On dit, par exemple, pour une relation d'aide de premier niveau, 15 minutes. Un, ça ne veut rien dire, une relation d'aide de premier niveau. Une relation d'aide de deuxième niveau, personne n'a décrit ce que ça veut dire, c'est 30 minutes. Mais ça se peut que la relation d'aide que je doive avoir avec vous aujourd'hui, que ça me prenne 45 minutes, une heure, parce qu'il faut vraiment faire le tour. Et si j'ai pas, si je ne réponds pas à pas votre besoin...
Il n'y a pas cette liberté-là.
Mais non, quand on fait du minutage, non.
Mais est-ce qu'on peut la prendre? Est-ce qu'on peut décider, tant pis, moi je prends cette liberté-là?
C'est quoi, savez-vous, c'est quoi les conséquences? Les conséquences, c'est qu'elles se font dire par les chefs d'unité que comment ça se fait que toi, tu n'as pas réussi à rentrer dans ton minutage de la journée, ta collègue, elle a réussi. Alors, il y a une espèce de concurrence malsaine qui est installée au niveau des équipes et on te fait dire que tu n'es pas bonne, toi. Tu ne sais pas t'organiser parce que tu n'es pas rentrée dans la grille. Alors, il faut justifier pourquoi est-ce que je suis restée une heure au lieu de 15 minutes chez cette personne-là? Et là, ce que je fais, je pars chez moi avec ça, je le fais le soir. Fait que mon travail, je le traîne encore à la maison. Je le fais chez moi pour être capable de justifier pourquoi je ne suis pas rentrée dans la grille. Et fois après fois, ça arrive à différentes personnes au niveau de l'équipe. Alors, on finit par dire, bien là, cette semaine, c'est toi qui n'es pas bonne. Et on nous raconte des affaires qui n'ont absolument aucun sens. L'objectif de cette semaine, tout le monde doit rentrer dans la grille. Comment voulez-vous que je dise oui, que je vais rentrer dans la grille cette semaine? Je dois prévoir ce qui va arriver chez tous mes patients et ça, que ce soit à l'intérieur des murs ou dans la communauté. Ça n'a pas de sens. Je ne peux pas prévoir qui va décompenser, qui va mal aller, chez qui je vais aller faire une injection, puis qu'en même temps, je vais dire, il me semble que son haleine, je vais peut-être regarder si la personne ne fait pas du diabète, on va faire un petit test d'urine rapidement. Mais tout ça, ça prend du temps. Et si je ne le fais pas, moi, je m'en vais chez moi comme infirmière, puis je ne suis pas bien parce que je n'ai pas fait mon travail d'infirmière, parce que je sais que ne pas le faire, j'ai peut-être mis la santé de quelqu'un en danger.
Pourquoi ça irait mieux?
Ça irait mieux si...
Le système a l'air alourdi, difficile à contrôler.
Par la gestion, tout à fait.
Je ne sais pas par quoi, mais on le sent alourdi. Oui. Pourquoi ça irait mieux?
Ça irait mieux si on arrête cette gestion de contrôle. Ça irait mieux si on donnait plus d'autonomie, à mon avis aussi, à certains gestionnaires qui sont dans les programmes, si on donnait plus d'autonomie aux directions d'établissement. Et il y a un effet pervers aussi, c'est que les établissements n'ont pas le droit de faire de déficit, donc c'est un budget annuel. Or, moi, j'ai des directions d'établissement qui m'ont dit, Madame Laurent, c'est super le fun ce qu'on pourrait faire, mais comme je vais en tirer un bénéfice en termes budgétaires, seulement dans un an ou deux, je suis obligée d'arrêter le projet à l'automne parce qu'il faut que j'arrive à zéro au 31 mars. Donc, ils vont l'arrêter. On n'a pas cette latitude-là. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir les budgets, mettons, sur 2 ou 3 ans? Et à ce moment-là, s'ils trouvent des façons de faire une autre organisation qui ne rapporte pas en termes financiers aujourd'hui, mais qu'on sait qu'à moyen terme, ça va donner des bénéfices et pour les patients et budgétaires, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça?
Est-ce qu'il y a des modèles? Est-ce qu'il y a des modèles ailleurs? Est-ce que...
Oui, il y a des modèles ailleurs. Il y a des modèles ailleurs au Canada, puis il y a des modèles ailleurs aux États-Unis où on a un peu plus de latitude au niveau des établissements et les budgets pas forcément annuels aussi.
Est-ce qu'on a une difficulté au Québec à suivre des modèles qui viennent d'ailleurs? Est-ce qu'on veut toujours réinventer la roue?
C'est même pas... Je suis pas sûre que c'est ça, parce que la philosophie de gestion qu'il y a en ce moment à la ligne, les proactions, etc., c'est venu d'ailleurs. Or, ailleurs, ils étaient en train de dire que ça n'avait pas de bon sens parce que ça fait 20 ans qu'ils l'ont laissé tomber. Notre problème, c'est qu'on prend ce qui est plus bon ailleurs, puis on trouve que c'est de l'innovation
au
Québec.
On n'est pas intelligent, alors, quoi.
Bien, c'est une question de choix, c'est une question philosophique, c'est une question de où on veut aller et à qui on veut donner de l'argent. Parce que quand vous prenez des firmes à coups de millions qui viennent dire aux gestionnaires déjà payés comment faire leur job, bien, voyons donc, on paye, vous et moi, doublement. Parce que les gestionnaires sont censés faire ce travail-là, regarder l'organisation du travail, mais quand on instaure cette gestion de contrôle, puis que même les gestionnaires ne sont plus capables de rien faire, ça n'a aucun sens. On est dans la dispensation de soins, ça n'a pas de sens.
Vous proposez à la Fédération interprofessionnelle que vous dirigez, que vous présidez, en tout cas, encore au moment où on fait l'entrevue, là, au printemps 2014, vous proposez des maisons pour aînés petites, qui vont évoluer avec les besoins, alors que c'est déjà tout un problème de savoir où on envoie son vieux papa ou sa vieille maman. Et puis, on sait que quand il va avoir besoin de 30 heures au lieu de 18 heures de soins, il va être obligé de changer d'établissement. Puis peut-être qu'ils vont être séparés tous les deux. Il y a quelque chose d'un peu utopique dans votre proposition de faire des petites maisons qui vont évoluer avec les besoins.
Mais c'est ça qu'on ne veut plus vivre. C'est ce que vous venez de décrire, que je ne veux plus vivre. Moi, j'ai des couples dans mon entourage proche où on a séparé après 55 ans de mariage, 55 ans qu'ils vivaient ensemble, parce que madame fait de l'Alzheimer, donc elle répond plus aux critères, elle rentre plus dans la petite boîte, elle rentre plus dans le code-barre. Donc, on les a séparés. Ce qu'on veut dans ces petites maisons-là, c'est qu'au lieu que ce soit les personnes qui rentrent dans la petite case, que ce soit les soins qui répondent à leurs besoins, qui s'ajustent.
Ben, merci, en tout cas, de nous faire rêver comme ça un système qui serait...
On va le faire, je vous le dis.
Plus humain.
Les cliniques de proximité, on va le faire.
Merci, Régine Lambert.
C'est déjà fini?
Voilà.
Mon Dieu, merci. Merci beaucoup.